suite de l'étude sur la cure d'âme.
Le point numéro 2, rétablir la foi. Voyez-vous, le premier que nous avons traité hier s'intitulait « Retour à l'expérience de base du salut ». Et maintenant, le deuxième point, rétablir la foi. Nous pouvons d'ores et déjà faire une observation, connaissance prise, bien entendu, de la révélation de notre Dieu, révélation que nous obtenons par les Écritures, par la Bible, lorsque celle-ci est consultée précisément avec la foi et que le Saint-Esprit l'illumine. Eh bien, nous pouvons faire une première observation d'ordre général, c'est que le Seigneur Dieu a d'avance entièrement vu, entièrement conçu la vie chrétienne que nous menons. Je vous citerai déjà ce verset des Éphésiens, Éphésiens chapitre 2. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Voyez par conséquent, n'est-ce pas, que tout est situé. Comprenons bien cela. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il avait un plan. Vous savez, un plan bien plus perfectionné que celui que nous avons établi ici pour nos propres besoins de maintenant. Il avait un plan et il accomplissait en toute chose la volonté de son Père au point qu'il pouvait dire « Je ne fais rien de moi-même, je ne fais rien de moi-même, je ne peux rien faire de moi-même, j'accomplis la volonté de mon Père, en toute chose même, dans des actions de détail. » Il disait cela, il affirmait cela. Par conséquent, il venait sur la terre accomplir les œuvres dont le Père l'avait chargé. Il venait apporter les paroles que le Père lui avait confiées pour la terre, pour les hommes. Eh bien, notre vie chrétienne est conçue de la même manière. Et cette vie chrétienne qui comporte tout un ensemble, bien des choses, vie chrétienne qui s'amorce au moment de la conversion, c'est-à-dire au moment où nous recevons la grâce du pardon des péchés et la régénération. La régénération. À partir de ce moment-là, naissant de nouveau par le pouvoir que la parole de Dieu nous apporte, qu'elle fait agir en nous pour que nous devenions enfants de Dieu, pour que nous naissions de Dieu, alors à partir de ce moment-là, nous entrons dans une vie. C'est ça la vie de foi, vraiment. On appelle quelquefois la vie de foi la vie qui consiste à se laisser suspendre quant à la satisfaction des besoins courants, à des dons, par exemple, n'est-ce pas, des apports d'argent. C'est employer une très belle expression pour un objet bien trop restreint et bien trop intéressé à mon gré. La vie de foi, c'est la vie dans laquelle on accomplit entièrement le dessein de Dieu, la volonté de Dieu. C'est ça, la vie de foi. Ça intéresse toute la manifestation de l'être humain qui est entré dans le corps de Christ. Et cette vie chrétienne, si complexe, mais si facile à vivre, si on veut vraiment la vivre comme il convient par les moyens que Dieu a mis à notre disposition, cette vie chrétienne, Dieu l'a fait reposer sur un pivot, sur un pivot. Tout repose sur un pivot, sur une seule chose, la foi de nos cœurs, c'est tout. Autrement dit, Dieu ne veut pas que nous allions chercher un moyen d'accomplissement, s'il en était, n'est-ce pas, à notre pensée d'homme, un moyen d'accomplissement autre que celui-là. La foi, c'est tout. La foi seulement. Dieu ne veut pas autre chose. Si nous apportons quelque chose, ou nous prétendons apporter quelque chose de nous-mêmes, nous allons entrer dans l'erreur de la propre justice. Et attention, nous allons au-devant d'un grave écueil que situe l'Écriture. Si nous apportons quelque chose, eh bien, alors nous méritons un salaire. N'est-ce pas ? Dieu va nous devoir quelque chose, ce qui est impossible et inconcevable. Donc, Dieu a tout fait reposer sur la foi. Sachons-le bien, chers amis, sur la foi. Et pourquoi a-t-il fait cela ? Il y a, bien sûr, des raisons très apparentes, je ne vais pas m'y étendre ce soir, mais simplement en signaler une qui est de grande importance, c'est que, chers amis, l'Écriture nous montre qu'il est impossible de changer le cœur humain autrement que si ce cœur exerce la foi, si dans ce cœur, ce sens spirituel qui s'appelle la foi s'élève, s'exerce, jaillit en direction de Dieu, il n'y a que ainsi que le cœur humain peut être changé. La vue est impropre à guérir le cœur humain qui est tortueux, impropre à le guérir, absolument impropre. Dans le cours du millénium, vous savez ce que c'est que le millénium, ce règne de 1000 ans qui est annoncé dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, mais qui est aussi signalé par d'autres textes. Eh bien, dans le cours du millénium, il y aura des naissances. L'humanité, au commencement du millénium, sera très réduite. Les hommes seront rares comme l'or d'Ophir, dit Ésaïe. Il y aura eu des hécatombes épouvantables, et c'est vraiment un groupe humain très réduit par rapport aux 4 milliards et demi presque que nous sommes maintenant sur la Terre, n'est-ce pas ? Et alors, il y aura des naissances. Ils n'auront pas des enfants pour les voir mourir. Il y aura des naissances. La procréation se poursuit. Et ces hommes naîtront dans un temps où le Christ règnera, où il y aura liesse spirituelle, euphorie sur la terre. Dieu règne, et c'est le bonheur universel. La connaissance de l'Éternel remplit la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer. Et alors, la terre est remplie d'un chant merveilleux d'allégresse. Alors, vous pourrez me dire, mais les hommes et les femmes qui vont naître en ce temps-là seront bien heureux. Ils vont être vraiment heureux. Et alors, ils vont connaître le Christ. Bien sûr, ils vont être tout acquis à lui. Ils auront goûté, savouré un temps magnifique. Eh bien non, chers amis, à la fin du millénium, le diable qui sera délié pour un peu de temps, il faut qu'il soit délié. C'est prévu, le plan de Dieu comporte cela. Il sera délié, il vient, il séduit ses hommes, et il emporte toute une masse d'hommes à l'assaut de la cité de Dieu. Chers amis, c'est effrayant. Effrayant. Voilà le cœur humain. Impossible de le changer. Et il faut que nous sachions cela. Vous voyez, l'Écriture nous a mis ça devant nous, n'est-ce pas, pour que nous comprenions quelle incurie il y a dans le cœur humain. Eh bien, Dieu a résolu de le changer, ce cœur, de le transformer par sa grâce, par une action créatrice venant par son Fils Jésus-Christ, qui par avance paie le prix du rachat des âmes, bien sûr. Et il a résolu de sauver donc, par sa grâce, qu'il nous donne par son bien-aimé Fils, mais cela aux hommes et à ceux-là seulement qui exercent la foi. Non pas exercer la foi simplement pour saisir l'entrée dans la vie chrétienne, saisir le commencement, mais pour poursuivre leur marche jusqu'à leur terme sur la terre. La foi. Et il n'y a que dans ces conditions-là, il n'y a que dans ce plan de Dieu que le cœur humain peut être transformé et changé. La vue est impropre à changer le cœur humain. Et lorsque nous consultons le Nouveau Testament, nous nous apercevons qu'il y a répétition fréquente de cette expression « par la foi ». S'agit-il de quelque chose qu'il nous est demandé de faire? Eh bien, souvent nous trouvons cela par la foi. Faut-il mourir au péché? Oui. Se regarder comme mort au péché? Oui. Mais par la foi. Et dans le Nouveau Testament, nous avons plus de 50 fois cette expression par la foi. J'ai compté 21 répétitions de l'expression dans le chapitre 11 des Hébreux, vous savez, chapitre 11 des Hébreux, n'est-ce pas, qui nous parle de la foi, qui d'ailleurs nous donne au début une définition de la foi, et qui ensuite nous parle de tous ces témoins des temps passés qui ont fait des choses extraordinaires, ou plutôt qui sont passés par des événements extraordinaire que Dieu a accompli, mais ils avaient la foi. C'était en raison de leur foi. Et puis, nous avons plus de 30 fois, en dehors de ce chapitre 11 des Hébreux, plus de 30 fois encore l'expression par la foi dans le reste du Nouveau Testament. Il faut donc que la foi soit mise en action. Et lorsque nous consultons ce chapitre 11 des Hébreux, je ne vais pas vous le relire, vous le connaissez, nous lisons ceci, par exemple, au début, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire des choses qu'on voudrait, que le cœur voudrait avoir, obtenir, des choses auxquelles on attache un désir, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, qui sont du domaine invisible, du domaine spirituel, mais pourtant la foi en apporte une démonstration. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, croit qu'au mort, Abel parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et puis alors plus loin, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Voilà Noé qui construit une arche. Et ça, c'est sa foi qui le lui fait faire. Sa foi le pousse à ça. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Voilà cet homme, n'est-ce pas, qui accomplit véritablement une séparation avec sa famille, séparation irrévocable, il s'en va, il ne sait pas ce qui va advenir de lui et de son épouse, et puis de tous les serviteurs qui l'accompagnent, mais il s'en va. La foi le pousse à ça. Il fait cette action par la foi. Ce n'est pas la raison qui le guide, ce n'est pas l'intelligence, c'est la foi. Et puis, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Voilà, ici, n'est-ce pas, il s'agit d'une opération de Dieu, utilisant cette épouse, cette femme, Sarah, qui était stérile, et voici qu'à un âge très avancé, où on n'a plus d'enfants, généralement, voici qu'elle met au monde un fils. Alors, elle avait la foi, mais c'est Dieu qui opère. Oui, elle avait la foi, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Voilà, n'est-ce pas, une utilisation de la foi, croire à la fidélité de Dieu qui a fait des promesses. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Voilà quantité de gens qui n'ont pas vu l'accomplissement des promesses de Dieu. Ils ne les ont pas vues, elles étaient trop loin d'eux. Mais cependant, ils les ont salués de loin, ils étaient certains que ces promesses s'accompliraient. C'est magnifique, cela. Hein? Voyez-vous, voilà le type de foi. Voilà cette foi que le Seigneur nous demande. Je me souviens d'une femme qui avait prié d'une façon absolument régulière pendant des années pour la conversion de son gendre, que j'ai bien connu et qui était un garçon très loin de l'Évangile, et même, peut-on dire, un garçon qui aimait se moquer, qui était rebelle, et elle priait. Et puis, cette femme, un jour, a été gravement malade, et elle est morte, mais avant de mourir, elle a dit, « Je sais qu'il se convertira. » Et vous savez, pour dire ça de cet homme, à ce moment-là, il fallait vraiment la foi. Elle est partie avec cette assurance, et moi qui ai vu la suite, plusieurs années après, l'homme s'est converti en effet. N'est-ce pas ? Il s'est converti, voyez-vous. Voilà une femme qui, elle aussi, a salué de loin l'exaucement d'une prière qu'elle faisait à Dieu, et elle avait dans son cœur l'assurance, par la foi, que cette prière était exaucée. Enfin, je ne vais pas détailler tout ce chapitre 11, bien sûr, n'est-ce pas, des Hébreux, vous le connaissez, il est très important, il est très stimulant pour nous, il faut le relire de temps en temps, en le méditant, parce que cette nuée de témoins doit maintenant, dans l'Église, et bien sûr, cela s'est fait déjà depuis pas mal de siècles, doit se compléter. Nous aussi, nous devons faire partie de cette nuée de témoins. Il faut donc mettre la foi en action, non pas seulement pour être justifié et régénéré, mais tout au long de la vie chrétienne, il faut mettre la foi en œuvre. Vous connaissez l'épître de Jacques aussi, qui suit celle des Hébreux. Eh bien, Jacques nous dit dans son chapitre 2, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Et il expose ici, n'est-ce pas, la foi se manifestant par des œuvres. Ce qui n'est pas en désaccord avec l'épître de Paul aux Romains, qui nous parle de la justification par la foi et sans les œuvres de la loi, les œuvres de la loi. C'est-à-dire, n'est-ce pas, on n'obtient pas la justification et l'entrée dans le corps de Christ, dans l'Église, on n'obtient pas par les mérites qui pourraient résulter d'une bonne conduite, d'un bon accomplissement des commandements de la loi. Non pas. Même si l'on avait très bien accompli ces commandements, voyez le jeune homme riche qui peut dire, n'est-ce pas, mais j'ai observé toutes ces choses. Et il parle des commandements, il est question des commandements que le Seigneur Jésus lui a cités. J'ai observé toutes ces choses. Oui, il a peut-être observé toutes ces choses, mais il n'est pas justifié. Et le Seigneur Jésus lui donne un moyen qui ne lui convient pas, d'ailleurs, n'est-ce pas, et qu'il refuse. Eh bien, ainsi, la foi n'est pas seulement ce qui va nous permettre de saisir la grâce du salut, mais cette foi va entrer en action dès que nous serons entrés dans l'Église. Dès que nous serons enfants de Dieu, la foi doit se mettre à l'œuvre et rester agissante par l'amour. Rester agissante. Il faut qu'elle agisse. Si elle s'arrête, si elle cesse d'agir, si elle rentre dans une certaine indolence, une certaine apathie, si on ne pense plus à se servir de la foi, si on se laisse vivre, si on se laisse aller, on se laisse porter par les habitudes, eh bien, mes amis, alors notre vie chrétienne va nécessairement s'effondrer. Nécessairement. Et alors, bien sûr, nous serons un des malades spirituels. Qu'est-ce que la foi? Eh bien, la foi, c'est quelque chose de mystérieux. À l'origine, il y a un don de Dieu. Seulement, quand on parle du don de la foi, on dit souvent des choses très inexactes. Il est certain que Dieu nous a donné le moyen de la foi et nous a donné, j'appelle ça, un sens spirituel, un organe, si vous voulez, et qui s'appelle foi et qui permet d'exercer la foi. Mais il n'exerce pas la foi pour nous à notre place. Il nous a mis des yeux sur la tête. Il nous a mis des oreilles aussi. Mais nous pouvons très bien boucher nos oreilles et fermer nos yeux, ne pas vouloir voir et ne pas entendre. C'est ce que Jésus reprochait justement aux religieux de son temps. Ils ont des oreilles pour entendre et ils n'entendent pas. Ils ont des yeux pour voir et ils ne voient pas. Donc, la foi est un don en tant que possibilité, en tant qu'organe dans notre cœur. Dans notre cœur, il y a le sens de l'éternité, l'aspiration à l'éternité. Il y a quelque chose qui est prêt, là, à se manifester, à s'extérioriser. Et c'est ça, la foi. Mais encore est-il qu'il faut l'exercer. Si quelqu'un veut la contenir, en cédant, par exemple, à son intelligence, à sa raison, en cédant aux contraintes qui s'exercent sur lui dans le monde où il est, n'est-ce pas? Il ne veut pas paraître arriéré, il ne veut pas se montrer comme quelqu'un de religieux, il lui semble, son orgueil, si vous voulez, l'en empêche, alors il empêche sa foi. Il barricade son cœur. Il ne veut pas que sa foi s'exerce. Mais la foi est faite pour s'exercer. Et l'exercice de la foi, cela est laissé à notre responsabilité. C'est pourquoi l'Écriture nous invite à exercer la foi. Eh bien, la foi est un élan de l'âme. Un élan. Un grand élan de l'âme vers Dieu. La foi, l'exercice de la foi, c'est un mouvement qui est naturel, naturel parce que Dieu l'a mis en nous. Ah, nous avons tous dans le cœur le sens de l'éternité, la pensée de l'éternité, le besoin de l'éternité, et par conséquent, le besoin de Dieu. Alors, c'est un mouvement naturel de la pensée. C'est une aspiration du cœur qui ne demande qu'à s'extérioriser en direction de Dieu, mais il faut que ce cœur se sente assoiffé de vérité, même de justice, et se trouve comme emporté vers un Dieu qui précisément veut répondre à cet élan qu'est la foi. Il veut y répondre par sa grâce. Voilà ce que Dieu a prévu, la foi des cœurs. Et la foi des cœurs, elle saisit d'abord la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, elle découvre Dieu, elle découvre Christ, elle découvre Dieu, et puis elle obtient la grâce de Dieu. Dieu répond par sa grâce à la foi des cœurs. La foi fait son apparition à l'écoute de la parole de Dieu. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et ça reste vrai au cours de la vie chrétienne, ce n'est pas seulement pour les gens du dehors que cela est écrit. L'écoute de la parole de Dieu, alors si nous n'écoutons plus la parole de Dieu, ou si nous ne la méditons plus par le moyen des saintes écritures, il est certain que notre foi va se trouver privée de nourriture. Elle est un sens qui ne va pas trouver le moyen de s'exercer. Imaginez par exemple que un bras, nous l'immobilisions par une attelle, c'est-à-dire un morceau de bois auquel le membre serait ficelé, lié, et laissons-le comme ça pendant 3 mois. Eh bien, ensuite retirez l'attelle et votre bras n'agira plus, il faudra le rééduquer. Si la foi ne s'exerce pas, si nous ne nous en servons pas de notre foi, eh bien, elle va évidemment s'étioler. Elle va se paralyser. Et c'est ça que connaissent bien des malades de l'âme. Une foi dont ils ne sont plus maîtres. Ils sentent qu'ils ne peuvent plus la faire agir. Ils sont comme bloqués, ils sont devant une incapacité de faire agir la foi. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont négligée. Alors il faut reprendre, comme je l'ai dit dans notre plan, la rééducation, l'éducation à nouveau de la foi. Et la foi, lorsqu'elle s'exerce, saisit des certitudes. Elle saisit des certitudes. Elle entend la parole de Dieu, ça. Et dans cette parole, elle découvre, elle, des certitudes. Elle en fait des certitudes. Je dirais même plus de la foi vivante, bien entendu, de la foi qui est restée éduquée, qui est restée à l'œuvre, dont on s'est servi, n'est-ce pas ? La foi d'un chrétien qui n'a pas manqué de la faire agir, eh bien, je vous dirais même plus, cette foi, lorsqu'elle saisit la parole de Dieu, lorsqu'elle la saisit, n'est-ce pas, elle y trouve la vérité. Et cette vérité, elle la rend puissante, ou plutôt, si vous voulez exactement, elle saisit la vérité et saisit la puissance qui accompagne la vérité. Car la vérité dispose de puissance. Le saviez-vous ? La vérité dispose de puissance. Oui, la vérité, n'est-ce pas, qui est là énoncée par le moyen de mots, de phrases. Si nous lisons cela avec la foi, le Saint-Esprit, lui, va se mettre à l'œuvre, le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole. Il se met à l'œuvre, il est là. Il est là, dans notre méditation. Et alors, il va transformer, si vous voulez, ce qui était un écrit, ce qui était des phrases, des mots, il va les transformer en une parole, comment dirais-je, qui retrouve toute la puissance de la parole de Dieu quand elle est énoncée. Et la vérité apparaîtra avec la puissance qui l'accompagne. Il y a de la puissance dans la vérité. Et si bien que la foi, la prière par exemple, la prière de la foi, que fait-elle ? Eh bien, la prière de la foi saisit la vérité Et elle saisit en même temps la puissance de la vérité. Et elle s'approprie, elle prend la vérité avec sa puissance. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous a dit, si lorsque vous priez et que vous demandez quelque chose et que vous ne doutiez pas dans votre cœur, que vous ayez par conséquent cette foi entière, cette foi qui est une démonstration, une certitude des choses qu'on espère et qu'on demande. Alors si vous priez ainsi et que vous croyez que la chose que vous demandez, vous l'avez reçue, vous la verrez s'accomplir, ça ne peut pas manquer. Rien ne vous serait impossible. C'est dans Matthieu 21. Rien ne vous serait impossible. Rien. Comme à Dieu. À Dieu, rien n'est impossible. Eh bien, vous, votre prière de la foi, si elle est vraiment celle-là, rien ne vous serait impossible. Rien. Chers amis, nous disposons là d'un moyen vraiment extraordinaire. Il y a quelqu'un qui a dit, il n'y a pas dans le monde de la terre de puissance aussi grande que celle de la foi. C'était un scientifique et un homme de foi en même temps. Il n'y a pas de puissance plus grande que celle de la foi. Alors, chers amis, est-ce que nous avons à nous cette puissance? Est-ce que nous nous en servons? Nous avons négligé cela. Nous l'avons perdu de vue. Nous nous sommes laissés un peu trop entraîné par peut-être le train-train. Ben oui, évidemment, n'est-ce pas, même nos réunions finissent par s'enliser un peu, peut-être dans un petit train-train, une répétition dans des habitudes. Et nous oublions de réfléchir, nous oublions de méditer comme tout à nouveau la parole de Dieu. Nous oublions tout simplement que nous avons à notre disposition, de par la volonté de Dieu, une arme extraordinaire, la prière et la foi. Par la foi, donc, une foule de choses peuvent être réalisées. Aussi bien l'homme va les réaliser, l'homme de foi, que Dieu les réaliser lui-même en faveur ou en se servant de l'homme de foi. Ça va, donc la foi va produire des œuvres que, dans lesquelles l'homme sera lui-même un ouvrier, et puis elle va produire aussi des opérations de Dieu amenées, des opérations de Dieu, dans lesquelles l'homme sera impliqué. Les deux choses. Donc une foule de choses vont être réalisées par la foi, on peut dire que tout le plan de Dieu va se réaliser par la foi. Dans la vie chrétienne, donc, cette foi va engendrer toutes sortes d'actions, de paroles en vue du royaume de Dieu, en vue de la préparation du royaume de Dieu, en vue de l'appel des âmes pour le royaume de Dieu. Elle va se mettre à l'œuvre et, par exemple, le chrétien qui maintient sa foi et qui sait l'utiliser, eh bien, je cite rapidement, il sera encouragé. Il sera encouragé par Dieu, encouragé par un pouvoir surnaturel. Il ne trouvera pas un courage sur la terre, non, il le recevra d'en haut. Il sera encouragé. Il vivra. Il vivra vraiment de la vie éternelle, de la vie véritable. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais mon juste vivra par la foi. Ça, c'est un mot d'ordre que le prophète Habacuc avait déjà reçu pour l'Église. Voici une prophétie. Attends-la, elle s'accomplira sûrement. Attends-la, elle viendra, elle est venue avec l'Église. Mon juste vivra par la foi. Il sera fortifié. Il restera ferme dans la grâce qu'il l'a justifié. Donc, il n'aura pas été justifié pour ensuite rétrograder, pour retomber dans toutes sortes d'errements et de péchés. Non, il aura été justifié et il sera sanctifié. La sanctification conservera la justification qu'il a obtenue. Il progressera, nous dit l'Écriture, sans être aucunement préoccupé par les apparences des choses. Il restera fils de Dieu. Il restera fils de Dieu, véritablement fils de Dieu. Christ habitera dans son cœur. Il persévérera, il héritera des promesses. Il sera gardé par la puissance de Dieu, nous dit Pierre. Il sera gardé par la foi, par la puissance de Dieu, gardé. Il s'édifiera lui-même et priera par le Saint-Esprit, nous dit Jude. Il conservera la paix et la joie intérieure, nous dit Paul dans les Romains. Il sera rempli de Saint-Esprit, il sera plein de confiance, nous dit la deuxième aux Corinthiens. Et comme je le signalais à l'instant, rien ne lui sera impossible. Quel tableau, dites-moi, du chrétien qui a la foi, qui avance dans l'inconnu, on peut dire l'inconnu de cette vie de la foi, n'est-ce pas? Le vent souffle, nous ne savons d'où il vient, ni où il va, il en est ainsi de celui qui est né de l'Esprit, n'est-ce pas? Il est emporté par le souffle du Saint-Esprit, mais lui, il exerce la foi et il vit une vie magnifique, une vie abondante. Quelle merveille! Comme c'est merveilleux! Mais voilà, il arrive que la foi vacille, que la foi s'affaiblisse. Alors, à ce moment-là, le chrétien cesse d'être agréable à Dieu, et tout ce que nous venons de rappeler, bien d'autres choses encore, tout cela est à mettre au négatif. Si sa foi s'est affaiblie, si sa foi même s'est presque effacée, s'est presque retirée, alors il sera découragé, il ne vivra pas, il ne sera pas fortifié. Il ne pourra pas rester ferme dans la grâce qui l'a justifié. Il ne pourra pas se sentir vraiment fils de Dieu. Christ n'habitera pas dans son cœur. Christ, comme nous l'avons rappelé hier, sera à la porte. À la porte de son cœur. Il ne sera pas dedans, il sera à la porte. Mais Christ restera là, tout de même, pour frapper encore à cette porte et demander à être admis à l'intérieur. Oh! C'est extraordinaire cela, Christ qui pourtant a tout fait, a tout accompli sur la croix du calvaire, il a fini là l'œuvre de la rédemption, elle est achevée, il a achevé l'œuvre. Et maintenant, au lieu de se donner du repos et de regarder, Christ est là qui encore s'occupe des âmes qui composent l'Église. Il s'occupe d'elle, et s'il voit une brebis qui s'éloigne du troupeau et qui s'égare, eh bien, comme il l'a enseigné dans cette parabole extraordinaire de la brebis perdue, il va par mont et par vaux à la recherche de cette brebis perdue, au lieu de se donner, de rester là, dans sa gloire, dans la gloire qu'il a retrouvée maintenant. Oh, mes amis, nous n'avons véritablement aucune excuse de laisser notre foi s'affaiblir, s'étioler. Nous n'avons aucune excuse de la négliger, cette foi. Vraiment aucune excuse, chers amis. Il faut que tous nous nous ressaisissions, même si nous ne sommes pas tellement affaiblis. Eh bien, malgré tout, il faut que nous ressaisissions, car nous avons besoin de davantage de puissance par le moyen de la foi. Il arrivera que des chrétiens pourront faire naufrage, quant à la foi. Et ça, alors, c'est quelque chose de terrible, un véritable naufrage de la vie chrétienne. C'est ça qui est en perspective, qui est à craindre, si on laisse la foi s'appauvrir, se diminuer au point qu'elle n'est, pour ainsi dire, plus rien. Il faut absolument réagir. Et pour réagir, eh bien, il faut, comme devant toute déficience qui a causé une maladie de l'âme, il faut s'humilier. Il n'y a aucun retour, chers amis, aucun retour à Dieu sans cette humiliation. Ça, sachons-le bien, Sachons le bien, chers amis. C'est pas la peine de chercher un remède à nos difficultés, à nos maux, à nos malaises, à notre incommodité, disons, sur le plan spirituel, autrement que par une humiliation devant Dieu. Il faut venir se jeter à nouveau au pied de la croix. C'est indispensable, absolument indispensable. Et j'aimerais rapidement vous lire, par exemple, ce que nous dit le psaume 34, psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Pourquoi ont-ils l'esprit dans l'abattement? Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas bien. Parce qu'ils se sentent malheureux. Ils ne sont pas dans l'euphorie de la foi. Ils sont malheureux. Alors ils ont l'esprit dans l'abattement. Mais ils savent que c'est de leur faute. Et ils viennent s'en accuser devant le Seigneur. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous avons aussi le psaume 51, verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Tu ne dédaignes pas un cœur. Donc, nous sommes certains d'être accueillis par Dieu si, après une période de déficience, même peut-être de délabrement spirituel dans notre vie chrétienne, nous venons là au pied de la croix, le cœur brisé. Seigneur, ça ne va plus. Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Eh bien, alors là, nous serons reçus. Nous serons accueillis. Si le mouvement de notre cœur est sincère, ardent, nous serons accueillis par le Seigneur. Voilà donc, n'est-ce pas, comment il faut réagir après un temps de pauvreté spirituelle. Il faut aussi reprendre le bon combat de la foi dont nous parle l'apôtre Paul dans la première épître à Timothée. 1 Timothée, chapitre 6, et verset 11. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, c'est-à-dire l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. » En présence d'un grand nombre de témoins, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Reprendre le bon combat de la foi, c'est un combat qui se livre aussi bien au dedans à l'intérieur que au dehors, à l'intérieur dans le but de rechercher les grâces dont le verset 11 nous a parlé, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Alors, il y a une lutte, là, un combat à soutenir, et un combat aussi qui se mène au dehors contre les ennemis de la vérité et contre les tentatives du monde, contre ces séductions qui viennent du monde. Et l'apôtre dit à Timothée, qui n'est pas bien sûr quand même sorti de la vie de foi, si vous voulez, mais il y avait des problèmes. Il avait des problèmes que Paul connaissait. Et il lui dit, saisis la vie éternelle. Parce que la foi qui s'est relâchée est comme, si vous voulez, une étreinte qui s'est desserrée. Elle ne saisit plus rien. Elle ne retient plus rien. Elle ne saisit plus. Alors, l'apôtre Paul dit, mais saisis la vie éternelle, reprends-la solidement. Saisis la vie éternelle. Si la foi se relâche, évidemment, nous ne saisissons plus rien. C'est par la foi que nous nous approprions, que nous gardons, que nous saisissons. Si la foi se relâche, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme quelqu'un qui s'endort et qui tenait quelque chose dans la main, je suppose. Sa main s'ouvre et ce quelque chose tombe. Voilà pourquoi Paul lui dit, saisis la vie éternelle. Tiens bien la vie éternelle. Attention, prends garde de bien la saisir, de bien la tenir, cette vie éternelle. La vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Alors, chers amis, prenons bien garde à cela. Être appelé, nous le sommes. Je crois vous l'avoir dit la dernière fois, il n'y a pas de chrétien qui n'ait été appelé. Tout chrétien est un appelé. Vous avez été appelé. En ça, vous ne seriez pas là. Vous avez été appelé par le Seigneur, n'est-ce pas? Dans le commencement des Épîtres, nous le voyons, ça, à ceux qui ont été appelés. Appelés à être saints, mais qui ont été appelés. Eh bien, bien entendu, Timothée, lui aussi, a été appelé, mais être appelé, ce n'est pas posséder. Le Seigneur nous appelle à posséder, mais nous possédons si nous saisissons par la foi. Rappelez-vous une chose, c'est que Abraham n'a véritablement possédé les promesses que Dieu lui avait faites et renouvelées à chaque fois que cet homme manifestait sa foi, Dieu lui renouvelait ses promesses. Mais ces promesses étaient renouvelées, elles étaient des promesses. Et ce n'est qu'à la dernière, à l'ultime épreuve, par laquelle cet homme a vraiment été grandement éprouvé par Dieu, n'est-ce pas? L'ultime épreuve, celle qui consistait à répondre à la demande de Dieu en offrant son fils Isaac en holocauste, eh bien, ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu lui dit, eh bien, maintenant, puisque tu as fait cela, les promesses s'accompliront. Mais s'il n'avait pas fait cela, s'il n'avait pas conduit sa foi à ce point-là, où Dieu voulait qu'il la conduisît, eh bien, les promesses ne se seraient pas accomplies. Voyez-vous, les promesses étaient faites, mais comme le dit un excellent homme de foi, Dieu, lui aussi, a la foi en sa parole et en ses promesses. Il sait ce qu'il fait. Et il avait la foi qu'Abraham supporterait cette épreuve, cette ultime épreuve de la foi, et lui apporterait cette magnifique démonstration de sa foi. Et alors là, n'est-ce pas, comme Dieu veut donner à la foi les choses qu'il donnait à Abraham, dans les promesses, il y avait toute l'Église, il y avait tout le développement de Dieu, du plan de Dieu, tout le développement du plan de Dieu. Alors, comme Dieu donne à la foi, il a voulu que la foi du Père des croyants aille jusque-là. Le couteau levé sur la gorge de son propre fils. Et il a voulu que dans le cœur de cet homme, il n'y ait pas de difficulté, que cet homme ait vraiment un cœur rempli de foi, et que cet homme puisse se dire, eh bien même dans ce geste que le Seigneur m'ordonne de faire sur mon fils bien-aimé, dans cela, dans ce sacrifice de mon fils, il y a l'amour de Dieu. Et il y avait l'amour de Dieu. Il y a l'amour de Dieu. Et Abraham a pu méditer cela. Il y a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu était en cela. Alors, chers amis, pensons, n'est-ce pas, que ici, le Nouveau Testament le dit à Timothée, mais nous le dit à nous, n'est-ce pas, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. Mais oui, tu as rendu un beau témoignage. Au moment de ta conversion, très probablement, n'est-ce pas, oh, tu étais dans tout l'élan de ton premier amour. C'était magnifique. On aurait dit que tu allais bouleverser le monde avec la foi que tu avais là. Et depuis, ça a tout de même changé. Depuis, tu es devenu un peu raisonneur. Tu ne fais pas agir ta foi comme tu te proposais de le faire. Tout a bien changé. Ta foi a varié. Eh bien, il faut revenir, chers amis, à cette foi du premier temps. Et puis, j'irai maintenant rapidement parce que le temps nous presse. Nous avons dit qu'il fallait réapprendre à se confier en Dieu. Apprendre ou réapprendre, ça dépend si nous avons su le faire ou non. Mais se confier en Dieu, ça c'est l'exercice de la foi aussi. Ça c'est une utilisation de la foi. Vous savez que le prophète Ésaïe nous dit dans son chapitre 40 et verset 29 quelque chose de magnifique. 40, verset 29. Il donne, c'est-à-dire Dieu, Dieu donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance, même si c'est la défaillance de la foi. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà le secret de la vie chrétienne, victorieuse, triomphante. Le voici le secret. Se confier dans l'Éternel, se confier en lui. Et pour cela, bien sûr, il faudra assiéger le trône de Dieu par la prière persévérante. Et cela jusqu'à ce que Dieu est agi. Nous avons des textes, ce n'est pas le temps de vous les citer tous, des textes qui nous montrent que Dieu aime cela. Vous savez pourquoi Dieu veut que la prière soit persévérante et il fait attendre quelquefois son exaucement. Il l'a fait pour Daniel. Daniel a attendu 21 jours et il continuait à prier. Et il prierait encore si Dieu ne lui avait pas répondu et qu'il soit encore de ce monde. Il continuait à prier. Et au bout de 21 jours, il a reçu la réponse. Mais pourquoi Dieu nous fait-il attendre? Il n'y a pas toujours des obstacles dans le monde des dominations et de ces esprits méchants dans les célestes. Mais Dieu nous fait attendre parce que il évalue, il pèse notre foi. Et il attend que notre foi se dégage de ce qui est encore un peu trop humain en elle. Et il attend que notre foi soit vraiment armée d'une volonté implacable et que notre foi arrive à l'égal de la sienne. Que notre volonté d'obtenir une chose, la chose que nous lui demandons, arrive à l'égal de la volonté de Dieu de la donner, cette chose. Lorsque notre volonté par la foi est arrivée à l'égal de la volonté de Dieu, la chose est accordée sûrement. Voilà pourquoi Dieu veut éduquer notre foi. Il veut l'éduquer. Il veut la faire grandir, la faire croître. Les apôtres ont demandé au Seigneur Jésus, « Augmente-nous la foi !» Et Jésus leur a répondu, « Si vous aviez de la foi seulement comme un grain de sève, vous en aviez seulement un tout petit peu. La quantité n'est pas ce qui importe le plus, mais c'est la qualité de votre foi. Si vous aviez une foi tenace, une foi qui ne désarme pas, une foi qui lutte, qui combat, eh bien, vous obtiendriez tout ce que vous voudriez. Tout ce que vous voudrez. Tout, absolument tout. Demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, et tout ce que vous demanderez, je le ferai. Tout, absolument tout. Voilà, chers amis, des choses très importantes. Il ne peut pas y avoir de rétablissement dans une vie chrétienne qui s'est, laissée aller, qui a connu un affaiblissement, un appauvrissement, une tiédeur peut-être. Il n'y a pas de rétablissement sans, nous le rappelons, l'humiliation au pied de la croix et sans le retour à Dieu par le moyen de cette prière confiante. Eh bien, nous allons nous arrêter là ce soir, et je voudrais, pour terminer, vous dire simplement ceci, c'est que cette foi que Dieu nous demande, se croire, que Dieu attend de nous, eh bien, se croire de toute la force qui emploie toute la force que nous pouvons avoir dans notre âme, se croire nous permet d'entrer dans la connaissance de Christ et de Dieu, dans la connaissance intime de Christ et de Dieu. Et lorsque nous sommes dans cette connaissance, lorsque nous sommes véritablement liés par cette foi à notre Seigneur Jésus-Christ, dans la communion au Fils, qui est aussi la communion au Père, eh bien, alors là, nous sommes dans la place, si je puis dire. Là, nous sommes bien. Nous sommes véritablement avec Dieu. Nous sommes en Christ. Et bien entendu, si nous maintenons cette position, puisque le Seigneur Jésus employait ce verbe, « Demeurez en moi !» Demeurez, attention, ne quittez pas. Restez-y, maintenez-vous en moi. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Et à ce moment-là, tout sera merveilleux. Vous demanderez quelque chose, vous l'obtiendrez. Et votre vie sera une vie de victoire. La force qui vainc le monde, qui est victorieuse du monde, quelle est cette force, nous dit l'Écriture, c'est notre foi. Notre foi. Chers amis, rappelons-nous ces choses et n'oublions pas, surtout, d'en tirer pour chacun, pour nous-mêmes, n'est-ce pas, chacun pour soi, les conséquences qui nous apparaîtront comme devant s'adapter à notre cas, à notre situation, mais en tout cas, rééduquons notre foi. Allons plus loin avec notre foi. C'est indispensable. L'Église dispose aujourd'hui encore d'une puissance qui dépasse toutes celles que l'on peut connaître dans le monde, les puissances de la bombe atomique, par exemple, n'est-ce pas? La foi dispose d'une puissance, celle de Dieu, et elle est mise à notre disposition. Que le Seigneur soit béni. Amen.